LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Le vélo profite toujours à peu près de toutes les crises, voilà. Y compris de crises les plus improbables, comme je sais pas, un tremblement de terre à Kobe. Tout est à l'arrêt, il n'y a plus de voiture, les autoroutes sont détruites, les trains ne circulent plus. À pied, on peut circuler, mais on ne va pas bien loin. Ils ont tous ressorti leur vélo, on circule à vélo. Voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Frédéric Errand.
On a résisté, on s'est approvisionné à vélo. Crise pétrolière, on ressort son vélo. Et la crise sanitaire, soudain, on nous dit « geste barrière ». Qui aurait imaginé qu'un vélo puisse servir de geste barrière ? Bref, le vélo est super résilient.
La vélo-révolution. Histoire d'un objet en pièces détachées. Une série de Julie et Jean-Philippe Navarre. Troisième partie, la transition cyclable.
Dans Paris, il faut des pouvoirs pour les vélos. Et je suis venu parce que j'ai appris la mort du 9e cycliste ici, mais à Paris, il y en a qui risquent leur vie, tous les jours.
Paris, Bois de Boulogne, 1973.
Alors c'est scandaleux que nous ne puissions pas rouler en vélo, alors que les Japonais, les ricains à Central Park, ils roulent constamment sans être embêtés par les bagnoles.
Oui, à Guigui d'Imouna, dont nous venons d'entendre la voix, célèbre pour ses promenades à bicyclette au boulevard Saint-Michel et sur la croisette au moment du festival de Cannes, est un des fervents défenseurs, nous le savions depuis longtemps, de la bicyclette.
Il y a 18 ans, quand j'ai commencé à faire du vélo à Paris, on était tellement peu nombreux qu'on se saluait au feu rouge.
Anne-Louise.
Quand on était deux cyclistes au feu rouge, on se faisait un petit signe de la main. C'était un peu une façon de se dire « Ah, toi aussi, tu risques ta vie !» En fait, c'est très chouette de voir qu'il y a de plus en plus de monde à vélo. Enfin, c'est très varié en fait les cyclistes au niveau des catégories socioprofessionnelles, au niveau de l'âge. Moi ça me fait toujours super plaisir quand je vois des enfants qui roulent devant leurs parents et je me dis bah ça veut dire qu'on tend en tout cas vers une ville qui est plus sûre. Quand on voit rue de Rivoli qui est devenue une autoroute à vélo, ça fait vraiment plaisir. Il y a 5 ans, c'était la guerre. Hein.
Là nous sommes sur la Coulée Verte. Et la Coulée Verte c'est un symbole. Elle est aussi la raison pour laquelle nous habitons ici, parce que nous avons quitté Paris, parce que nous voulions être un peu plus tranquilles. Et la Coulée Verte se trouve à l'endroit où le président Pompidou voulait créer une autoroute. Il voulait prolonger la A10 jusqu'à la Tour Montparnasse, pour que les voitures puissent aller jusqu'à la Tour de Montparnasse pour faire la course. C'était la modernité.
Stein van Oosteren.
Et il y avait un fontenaisien qui s'appelait Louis Pouemounou, qui était contre ça, qui dit « mais on va quand même pas créer une autoroute qui va couper notre ville en deux, qui va balafrer la banlieue ». Et donc il a mis en place tout un mouvement citoyen. Ça lui a pris 14 années, sa vie. Il a perdu son travail parce qu'il était architecte. Et donc, comme il s'opposait au pouvoir public, ben, il était blacklisté. Et il a réussi à éviter ce projet. Mais il a été très constructif, il a dit bon, « je ne vais pas juste dire non, je vais proposer quelque chose d'autre à la place ». Et cette proposition, ils l'ont baptisée « Coulée Verte ».
Strasbourg.
Ça, c'est le canal de la Marne au Rhin. Il y a eu un port dans les années, à partir des années 30 et qui s'est arrêté grosso modo dans les années 70 et qui a été reconverti à la fois en lieu d'habitation, un lieu de détente, c'est un grand cinéma, il y a des habitations, des bureaux, enfin c'est vraiment un lieu de vie et sans voiture.
Jean-Luc Marchal, ancien chargé de mission déplacement et mobilité à Strasbourg.
Et au-delà du vélo, ce mouvement à partir des années 70, mais qui est lent, hein, parce qu'il y a des pays où ça a été très vite, je dis Pays-Bas, c'est le mouvement Provo des années 60, hein, ce mouvement fait que, certes, on développe énormément le vélo, mais en même temps on marginalise la voiture. Nous n'avons pas d'illusion. S'il y a plein de voitures, on ne pourra pas faire du vélo. Mais au contraire, dire aux gens, arrêtez de prendre votre voiture pour faire 1 km, 2 km, même 3 km. Prenez le vélo ou la marche à pied. Et tout ce mouvement fait que les villes aussi s'embellissent. Il y a les arbres, il y a des zones où il y a de l'herbe. C'est tout bête, hein, ça. Les gens peuvent jouer et en même temps faire du vélo. C'est tous ces éléments-là qui font que les villes, on connaisse une profonde mutation. Le changement qui s'est passé, je l'estime à partir du 1er janvier 1960. À partir du 1er janvier 1960, la vignette automobile est obligatoire et la vignette pour le vélo disparaît. Donc on peut considérer que c'est à ce moment-là que la voiture a tous les droits et se passe partout. Toutes les villes sont pleines de voitures. Et systématiquement, les ingénieurs de voirie étaient chargés de faire comment mieux, encore mieux rouler en voiture. on fait des rocades, des machins difficiles, des trucs absolument invraisemblables.
1972.
Ils ne sont pas contre l'automobile en tant que fait, en tant que moyen individuel de circuler d'une ville à une autre, mais à l'intérieur des grandes villes et surtout dans les centres, ça nous paraît ne pas être cohérent.
Mais qui êtes-vous, vous-même ?
Moi, je suis président des Amis de la Terre.
Vous faites toujours les trajets pour Strasbourg à vélo ?
En général, oui. Jean Chaumien, j'aurai bientôt 82 ans. J'ai grandi à Paris, ou à banlieue de Paris, Aulnay, Sevran. Je suis venu en fait pour les études de théologie donc à la faculté de Strasbourg, faculté de théologie protestante. Très vite, j'ai compris que, à la suite du décès d'une mère d'une famille écrasée par un camion, elle était en vélo Solex, membre de la paroisse où j'étais à l'époque, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et à partir de là, donc, j'ai mis en route cette association du cadre, comité d'action de roue, parce que. À l'époque, il y avait encore beaucoup de deux roues motorisées. Et il y avait aussi des vélos, mais c'était l'ère de l'automobile. Quoi. Il fallait laisser la place à la voiture pour du parking ou pour circuler.
C'était en quelle année ?
J'ai créé l'association en 1975.
À Strasbourg.
La place de la cathédrale, quand j'étais enfant, c'était noir de voitures. Et les pots d'échappement attaquaient la pierre, une pierre très fragile, la cathédrale elle-même. Vous aviez ici un grand axe qui était là et là, l'axe de pénétration et de sens. Et ici, vous aviez une grande place où il y avait environ 130 000 voitures au jour.
Et là, c'est ce qu'on appelle les pénétrantes, les grands axes.
C'est fini. Maintenant, ça, c'est entièrement piéton. Ça, c'est un piéton. Il y a un tram dessus. Il n'y a plus de voiture. Alors au départ, les cris d'orfraie. Ma voiture, comment je vais faire pour déposer ma grand-mère ? Comment je vais déposer ? Il y a toujours des choses comme ça. Là, il faut tenir compte, il faut travailler avec les gens, il faut expliquer. Puis à un moment, il faut décider.
Stijn van Oosteren. Je suis franco-néerlandais. Je travaille en tant qu'attaché pour le gouvernement des Pays-Bas et puis en tant que pro-vélo en France pour rendre le pays cyclable. On a construit un environnement dans les années 30, en fait, ça s'appelle la ville fonctionnelle, qui a considéré que la ville doit consister en quatre fonctions. Le quartier d'affaires où on travaille, ou des usines. Le quartier résidentiel, c'est la fonction habitée. Et le quartier là où on se détend, c'est les parcs, etc. Et aussi la zone marchande. Si vous coupez la ville comme ça en lieux différents, ben vous créez en fait un besoin de mobilité très grande. Et ben du coup, vous transformez la ville en une autoroute en fait. Et c'est ça qui s'est passé en France. Il y a eu l'industrie automobile, il y a beaucoup de marques françaises qui ont vraiment encouragé la voiture. On n'a pas de marque voiture aux Pays-Bas. Et donc, ça a encouragé cette machine à créer des routes pour les voitures. Donc, qui crée des routes, crée des distances. Donc, du coup, on va construire plus loin. Et donc, qui construit plus loin, appelle plus de routes, etc. Et ça a mis en place cette cercle de l'étalement urbain. Il y a aussi le développement des deux roues motorisées. Hein, en France, les enfants se mettent sur un deux roues motorisées à 14 ans. C'est pas le cas dans les autres pays autour. Et donc, on est très habitué à être motorisé, à aller très loin. Et en plus, ce qui s'est rajouté à ça, c'est la construction des centres commerciaux à l'extérieur des villes qui enferment les gens dans le modèle faire des courses égale prendre la voiture. Alors, aux Pays-Bas, très tôt, les Néerlandais, ils se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas ça. Et donc, ils ont très fortement encadré la construction de ces centres commerciaux à l'extérieur. En fait, il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est très proche de la ville et vous pouvez y aller à vélo. Ils sont accessibles à vélo, ce qui n'est pas le cas en France. La meilleure infrastructure cyclable, ce n'est pas une piste cyclable, mais c'est la ville multifonction. C'est la rue où vous pouvez tout faire.
C'est en réduisant le trafic auto et sa vitesse, son volume, qu'on relance le vélo.
Frédéric Errand, économiste des transports.
Et on a commencé à le faire aux Pays-Bas. Pourquoi aux Pays-Bas ? Parce que c'est encore aujourd'hui, le pays le plus urbanisé d'Europe. Les Pays-Bas au XVIIe siècle dominaient le monde entier, c'était le pays le plus riche du monde. Les Pays-Bas se sont urbanisés très fortement à cette époque, et dès 1650, on avait plus de la moitié de la population qui vivait dans les villes. Quand la voiture a débarqué dans ces villes très anciennes, au cours des années 60, elle a fait des dégâts énormes, parce que les enfants jouaient dans la rue, parce que la rue, aux Pays-Bas, est considérée comme un prolongement du logement.
Quand je parle du vélo en tant que Néerlandais, on me dit toujours « Oui, mais Stijn, c'est normal que tu parles du vélo parce que tu viens des Pays-Bas, ça a toujours été un pays cyclable. » Alors, pas du tout. En fait, au début, tous les pays étaient cyclables. Et après, il y a eu une chute de cette pratique du vélo parce que la voiture est arrivée dans les années 40, 45, ben jusqu'à aujourd'hui. La voiture a chassé littéralement le vélo de l'espace public, aussi les piétons d'ailleurs, il les a collés sur le côté, sur le trottoir. Les quelques pistes cyclables qui existaient étaient détruites pour garer des voitures. Et à la différence de la France, aux Pays-Bas, il y a eu un retour du vélo qui a commencé dans les années 70. Et il y a eu un déclenchement de ce mouvement, c'est en 71. Il y a eu une fille qui s'appelait Simone, qui avait 6 ans et qui allait à l'école à vélo et qui a été percutée par un automobiliste et elle est morte. Il se trouve que le papa de cette fille était un journaliste, Vic Langenhoff, qui était connu aux Pays-Bas et qui travaillait pour un grand quotidien. Et l'année d'après, la même chose est arrivée à un deuxième enfant, à lui, qui s'est retrouvé à l'hôpital aussi avec 3 autres copines. Mais là, l'enfant a survécu. Et donc, il a publié un article dans le journal qu'il a intitulé « Stop au meurtre des enfants ». Et cet article-là a lancé un mouvement national, « Stop de Kindermort », qui a duré très longtemps. Et ça a mis des gens dans la rue, justement, pour que ça change. Mais ça n'a pas suffi, parce que voilà, il fallait plus. Et il y a eu, l'année d'après encore, en 73, il y a eu le choc pétrolier. Et toutes les voitures étaient à l'arrêt.
La seule énergie dépensée en vélo, c'est l'énergie humaine, l'huile de genou. Profitons-en puisque nous manquons de pétrole et que nous nous plaignons de la pollution des automobiles. La bicyclette constitue donc à coup sûr un moyen de transport idéal.
Et le gouvernement a dit à ce moment-là, bah on va développer le vélo pour prendre un peu de notre indépendance par rapport au pétrole et pour rendre les routes plus sûres. Et donc ils ont commencé pour lancer un plan vélo national en 1974, 44 ans avant la France.
Alors, le comité d'action Deux Roues que vous fondez en 1975, le cadre à Strasbourg, quelle en était sa vocation ?
L'objectif, c'était de lutter contre l'insécurité routière, de redonner une place au vélo dans la ville. Moi, je m'infiltrais un peu partout, dans les réunions. La première, d'ailleurs, c'était avec une réunion avec le maire de Strasbourg. Je suis allé le saluer après cette réunion.
Jean Chaumien.
Et je lui ai dit, écoutez, vous nous avez créé une piste cyclable à la Cité de Lille, c'est là-bas que j'étais pasteur. Je lui ai dit, mais c'est un truc super dangereux. Il vaut mieux ne rien faire que de faire des trucs pareils. Du coup, il s'est mis dans une colère, Pierre Plumelin. Et quand il a vu que j'étais pas tout seul, il s'est assez vite calmé, puis il nous a expliqué que lui aussi, il faisait du vélo autrefois, enfin, il montait les Alpes. Ça a tout changé, quoi. Et je lui ai dit, mais attendez, les techniciens ne savent pas faire les aménagements. Il faudrait aller voir ce qui se passe ailleurs, dans un autre pays, en Hollande par exemple. Là-dessus, le maire m'a fait savoir, mais des semaines plus tard, que un voyage allait s'organiser. On allait prendre l'avion de Strasbourg-Ensheim pour visiter 3 villes qui ont des aménagements cyclables remarquables, à la fois Tilburg, Delft et puis La Haye.
Tilburg, c'est la première ville qui a réagi pour dire on veut bien tester le vélo. Et ils ont construit la première grosse piste cyclable entre l'université et le centre-ville. Et comme il y avait beaucoup d'étudiants qui vivaient à Tilburg, ça a très bien fonctionné. Et ensuite, c'est La Haye. Il a dit nous aussi, on veut bien tester ça. Ça a été très dur parce que les commerçants ont toujours peur de perdre des clients. Et donc les commerçants à l'époque, c'est assez drôle, disaient, drôle entre guillemets, qui disaient « Nous, on est contre les pistes cyclables, on va perdre nos clients en voiture et on ne pense pas que ces clients en voiture seront remplacés par des clients à vélo. » C'est ce que disent aujourd'hui les commerçants en France. Mais la ville a quand même continué. Ensuite, c'est à Delft où ils ont testé la création d'un réseau vélo. Ils ont dit on va voir ce que ça donne quand on va connecter tous les petits bouts qui existent, toutes les rues apaisées, pour en faire un véritable réseau où un enfant peut se déplacer tout seul. Ils ont découvert que dans la moitié de la ville où il y avait mis en place ce réseau, il y avait beaucoup plus de cyclistes qu'avant, et aussi des femmes, des enfants. Donc ils ont continué à faire ça. Et Delft, c'est donc la première ville aux Pays-Bas qui a vraiment réussi cette transition.
La maire de La Haye, je me rappelle encore comme si j'y étais maintenant avec vous, mais vous êtes aumônier protestant. J'ai dit, écoutez, moi je suis militant associatif. On est allé visiter ces aménagements et puis ça a inspiré les techniciens pour faire des aménagements à Strasbourg et en particulier donc aussi la mise en place d'un schéma directeur Le 27 octobre, c'était précis, 1978.
Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré aux Pays-Bas, dans ces villes pilotes?
Oh, mais c'est la place de l'humain. En tant que pasteur, moi, je veux absolument privilégier l'humain sur l'objet, sur l'automobile. Et mettre des aménagements cyclables, c'est à la fois pour les adultes et pour les enfants. C'est un mode de vie complètement différent de ce que l'on peut avoir, d'aller à vélo à l'école ou à pied. C'est quand même mieux que d'être enfermé dans une tonne et demie ou deux tonnes de ferraille.
Je suis allé à l'école élémentaire, mais à pied. Par contre, dans cette même école qui existe encore aujourd'hui, il y a un énorme parking vélo. Donc les enfants de 9, 10, 11, 12 ans arrivent à vélo. Le ramassage scolaire, ça n'existe pas. Aux Pays-Bas, on ramasse des déchets, mais pas des enfants. Parce que les enfants, ils ont des pieds et des jambes, ils adorent bouger, et en plus c'est bon pour eux, et en plus ça coûte moins cher en bus et en essence, etc. Et après, comme beaucoup d'enfants, ben, comme tous les enfants néerlandais, j'ai grandi et j'ai eu 13 ans, et je devais aller au collège qui n'était pas dans mon village, parce que moi j'ai grandi à la campagne, et donc à 5 km du collège. Et donc, je partais à l'école à vélo, et comme souvent, ensemble avec les autres enfants. Donc en fait, on se donnait rendez-vous au point extrémité de la ville, et après on attendait les uns les autres, et après on partait ensemble, et on roulait toujours en colonne. Donc on était un peu comme les enfants français dans un bus, mais sans bus. C'était nous qui pédalions, et c'est très significatif, parce qu'en fait, sur ce trajet-là, on passait donc 30 minutes, et c'était notre moment d'être ensemble et de se partager notre vie. C'était là qu'on construisait notre personnalité, c'est là qu'on passait un moment ensemble. Et c'est la force du vélo aux Pays-Bas, c'est le moment social aussi. À 15-16 ans, je sortais en boîte à vélo. J'allais même pendant la nuit. Et c'était possible parce que même à la campagne, à rase campagne, où il n'y a pas de transport en commun, je roulais avec mes copains donc la nuit sous les étoiles. Et c'était magique. C'était juste magique parce qu'il y avait des pistes cyclables le long des routes très fréquentées.
Et donc cette première piste cyclable dont vous lancez le projet en 1978.
On a essayé de réserver des emprises, c'est fondamental, pour de futurs aménagements. Là par exemple, il y avait une ligne de tramway, qui n'était plus utilisée. On a réservé cette emprise, on a fait pareil le long des canaux, canal de la Marne au Rhin, le canal de la Bruche, le canal Rhône-Rhin. C'est des aménagements cyclables qui ont pu être créés par la suite, parce que en 78 déjà, on avait des réservations d'emprise.
Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez créé la FUB en 1980, la Fédération des usagers de la bicyclette.
Je me suis dit que que l'on faisait à Strasbourg, on pouvait aussi le faire à Paris, à Bordeaux, Lyon, à Lille et ailleurs. Je me suis dit, en se fédérant, on aura plus de force vis-à-vis de l'État, du ministère des Transports, etc.
On était en plein développement des transports publics.
Frédéric Errand.
Dans les années 70-80. C'est le retour de projets de métro dans les grandes villes de province, Lille, Marseille, Lyon. Et puis des projets de tramway dans les villes moins grandes. Avec Nantes qui va commencer dès 85, puis Grenoble en 87, Saint-Denis-Bobigny en 91, puis Strasbourg en 94, etc. Le tramway va reconquérir les villes françaises. On a une quarantaine de réseaux de tramway en France aujourd'hui. Et c'est à l'occasion de cette reconquête des espaces publics par le tramway qu'on va favoriser, pas tout de suite, mais dans un second temps, le vélo. On le voit très bien, ça, à Strasbourg.
Ce qui est drôle, c'est que maintenant que je...
Jean-Luc Marchal.
Je suis retraité, mais ces pistes-là, c'est moi qui les ai faites. Ça me fait rigoler, quoi. Voilà.
Et vos premières années, un peu de militantisme pour le vélo, avant d'être missionné vraiment par la ville pour opérer cette transition cyclable, ça s'est fait comment?
On faisait sur la route des fausses pistes, vous savez, la peinture avec Catherine Trottmann, justement, qui à l'époque était encore simple militante, quoi. On peignait sur la chaussée des fausses pistes, on faisait des trucs, des opérations un peu coup de poing, je veux dire. On faisait des balades à vélo également avec les enfants qui étaient petits, avec les enfants de Chaumien qui étaient aussi tout petits. Et puis on a gardé comme un esprit la foi, on a l'avenir pour nous. Ce qui n'était pas faux, du reste.
Dans mon schéma de priorité, j'ai toujours eu la priorité qui doit être donnée d'abord aux piétons. C'est l'humain, la base. Et ensuite, il y a le vélo, mais il y a le transport en commun. Nous avons milité ici à Strasbourg pour la création de ce tramway. J'ai organisé dans mon église des débats sur le sujet. Et Catherine Trautmann, qui avait ce projet de tramway, eh bien, finalement, elle est devenue maire.
Pour Strasbourg, ce qui a beaucoup bousculé le vélo, enfin, ce qui a donné un influx, c'est le tram. Les grands plans vélo ont été lancés en 1994 à Strasbourg. Il y avait à l'époque 6 vélos place de la gare. Ils sont actuellement plus de 6000.
Si le vélo fonctionne bien aux Pays-Bas, c'est parce que dans les trains aux Pays-Bas, un voyageur sur deux arrive à la gare à vélo.
Stijn van Oosteren.
Ils ont investi beaucoup dans le train, à tel point que sur la ligne très fréquentée, ils voulaient qu'il y ait un train tous les 10 minutes. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de regarder l'horaire. Et c'est ça qui a vraiment fait décoller les vélos. On ne s'en rend pas assez compte, mais cette combinaison du vélo et du train, ce qui fait qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, environ un déplacement sur trois se fait à vélo. Et dans les centres-villes même, 1 sur 2, voire 7 sur 10 à Amsterdam. Les Néerlandais qui vont donc à la gare à vélo, ils laissent leur vélo à la gare et à l'arrivée, il y a 12% qui continuent son voyage à vélo. Et il y a deux moyens de le faire. Soit ils prennent leur vélo de gare, qu'ils laissent en gare, c'est un vélo d'occasion, de 50 euros, voilà, qu'on laisse là. Ou bien on prend un OV-fiets, c'est-à-dire le vélo transport en commun de la SNCF néerlandaise. Vous pouvez le garder pendant 24 heures et faire tous les trajets possibles.
Ça aussi, c'est un signal. La personne que j'ai vue là, il y a 5 minutes, c'est le directeur de Musica, qui est un festival de musique contemporaine extrêmement important. France Musique retransmet. Et bien, il est en vélo. Il y a 20 ans, il serait venu en voiture. Les mentalités évoluent, les choses changent. Mais ça, c'est un signe qui est intéressant. Le premier plan vélo qu'on a fait, c'était en 94, fin 94. Et je l'avais fait illustrer par une boîte de communication. Et je dis, vous mettez un cycliste avec sa cravate en vélo. Il avait fait ça, et ça beaucoup plu, parce que c'était un signe de l'évolution, des changements qui étaient en cours. Le grand moment du vélo en France à cette époque-là, c'est le Tour de France. C'est pas le vélo du quotidien, c'était le vélo du sport. Et le sport existe toujours, hein, ça va de soi, mais le vélo du quotidien a gagné largement.
Quels ont été après les grands projets d'aménagement à Strasbourg pour permettre de faire de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui ?
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu des grands axes pour aller vers et sortir du centre. Et puis par la suite, ben, il a fallu relier tous ces axes entre eux. On a une première couronne, une deuxième couronne, etc. Et puis, il y a eu des velléités de certains, quoi, de dire « Ah ben nous, on ne veut pas de ça ici », ou alors on ne savait pas comment poser les pistes cyclables dans certains endroits. C'était compliqué.
Vous êtes ici à côté d'une piste cyclable qui est sûrement une des plus fréquentées de Strasbourg. On est à 13 000, 14 000 ou à une fois 15 000 vélos jour. Ouais, ça veut dire par an. Et c'est une voie. On a cherché, il y a un des quartiers un peu plus loin là-bas. On va aller à un des quartiers densément peuplés de Strasbourg, c'est le quartier Neudorf. Et on a fait une voie de pénétration cyclable vers le centre-ville. Et après, la piste s'arrête au centre-ville. Là-bas, on est en zone piétonne. On est en zone hyper, une circulation terriblement apaisée. 300 voitures jour, on ne fait pas une piste cyclable. Mais là où il y a un danger, on a fait une piste cyclable. Maintenant, on est presque amené à évoluer. Comme il n'y a quasiment plus de voitures, pourquoi ne pas mettre les vélos sur les chaussées ?
Thomas Joanneau, je suis directeur de projet Modes Actifs au CEREMA. C'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public qui œuvre aux côtés des collectivités et de l'État dans la mise en œuvre de politiques publiques. Cette question de choisir entre séparation et mixité vélo-voiture, eh bien, elle s'examine au travers de trois critères fondamentaux. Le premier, c'est bien sûr le volume de trafic motorisé que vous avez dans une rue. Au-dessus de 4000 véhicules par jour, hein, il y a la question à se poser de séparer le trafic motorisé des cyclistes. Alors qu'en dessous, eh bien, on va pouvoir imaginer des situations où la mixité vélo-voiture est possible, à condition aussi, bien sûr, de modérer la vitesse. Évidemment, on n'a pas la même ambiance. quand les voitures roulent à 20 km/h que dans une rue où vous avez des véhicules qui roulent à 50 km/h, voire plus, parce qu'on est dans une grosse artère. Modérer la circulation motorisée et aussi faire baisser la vitesse, c'est primordial. Ça joue sur le confort des cyclistes, qui n'ont pas des véhicules qui les rasent en permanence, avec du bruit, avec du vent relatif. Et ça joue bien sûr aussi sur la sécurité réelle. Ça fait baisser le risque d'accident et ça fait baisser aussi la gravité de l'accident quand il arrive. Si vous êtes cycliste ou piéton et que vous êtes percuté par un véhicule motorisé, si ce véhicule il va à 30 km/h, vous avez 85% de chances de survivre à l'accident. Si ce véhicule il va à 50 km/h, eh bien vous avez 85% de chances de ne pas survivre à l'accident. Donc cette question de la vitesse, elle est fondamentale. Et puis le troisième critère qui va faire qu'on va choisir de mettre les vélos avec les voitures ou de séparer les vélos et les voitures, c'est le niveau de service.
Strasbourg.
Quand on est arrivé, on a établi un plan vélo et on s'y est toujours tenu. Trois éléments, des aménagements cyclables pour que le cycliste le plus faible le sente en sécurité. Alors ça peut être des pistes, ça peut être des bandes, ça peut être des voies vertes, il y a différents éléments. Mais il faut toujours que ce réseau soit continu. Grosso modo, il peut être hétérogène en traitement, mais il doit être continu. S'il n'est pas connu, ça ne marche pas. C'est le premier élément. Non, c'est la lutte contre le vol. Des arceaux à vélo, des stationnements vélo, des locations de vélo qui permettent d'avoir des vélos doux, ça c'est important. Et du marquage de vélo qu'on a favorisé à Strasbourg bien avant qu'il soit obligatoire et qui est aussi un moyen de lutter contre le vol. Et troisième élément qui semble le plus important, c'est la culture vélo. Faire que le vélo soit comme la voiture, un élément structurant de déplacement pour l'ensemble de la société. Que le cadre aille en vélo à son travail. Et toujours en plein temps, je disais à Zurich, les gnomes de Zurich, les banquiers zurichois, ils vont en vélo. Et parce que tout le monde sait qu'il est banquier. Le banquier français, il prenait sa voiture. C'est en train de changer. Mais la voiture est encore un marqueur social. Il faut que ça change, il faut que ça évolue. Et il faut que les villes fassent ce gros travail qu'elles sont en train de faire, à toutes, un peu au prou, de dire, de requalifier leur centre-ville en l'apaisant. Et dernier truc, mais je le répète sans arrêt, ce qui va compter, c'est la volonté politique.
Il y a récemment, donc, la communauté urbaine et la commune de Lingolsheim ont décidé de mettre en sens unique certaines rues, mais partout, les cyclistes peuvent rouler dans tous les sens. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose de fantastique que j'ai obtenu en 1982, les doubles sens cyclables, déjà de la part de Pflümlin. Et là, j'étais dans son bureau, seul avec lui, et il m'a dit, mais attention, hein, mes ingénieurs, mes techniciens, mes amis politiques, tout le monde est contre, monsieur Soumien, tout le monde est contre. C'est à l'essai pour un an, et de toute manière, c'est l'autre là-haut qui va vous punir, vous, s'il y a le moindre accident. Résultat, maintenant, c'est dans toute la France.
Et là, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus précisément, puisqu'on est sur cette place donc très arborée, elle est entièrement piétonne, il y a des îlots de verdure un petit peu disséminés, mais elle était vraiment, c'était quoi, un grand rond-point? Alors un gros carrefour?
Vous avez cette rue-là qui est maintenant piétonne, qui est encore une nationale déclassée, c'était en 92 ou 93, dans très longtemps. C'est-à-dire. Et ici, vous aviez jusqu'à 94-95, un grand parking de cars. Les cars allemands, ils venaient ici. On a tout enlevé. Le vélo, c'est aussi ça. C'est la reconquête de l'espace public.
Paris, un soir, à 21h.
Anne-Louise, à Paris, il y a une tradition de communauté vélo qui existe, donc il y a d'autres groupes qui roulent comme ça le soir, il y en a le lundi soir, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et en fait, c'est souvent des groupes à majorité masculine qui sont un peu dans la performance, qui se tirent la bourre, qui veulent aller plus vite que les copains et tout ça. Et les go, au début, elles roulaient juste entre copines et ça a eu un succès, mais très très rapidement. C'est-à-dire que les premiers rides qu'elles ont fait, elles devaient être, entre 4 et 6. Et puis très rapidement, elles ont été 10, 15. Et c'est au sortir du Covid que là, on a eu en 2020, c'était assez fou, on avait 80 personnes qui venaient sur les rides verts, donc les rides faciles.
Je m'appelle Morane. Moi, ça fait pas longtemps, ça fait une année et ça fait vraiment peut-être 6 mois que je viens vraiment très régulièrement. Et ça me donne vraiment envie, en tout cas, d'apprendre à rouler beaucoup plus longtemps. Et c'est très inspirant de voir des filles qui roulent très bien. Et moi, ça me motive et en tout cas, j'apprécie aussi l'idée de partage et l'idée de voyage et toutes les perspectives que ça peut apporter quand on est une femme et qu'on démarre le vélo.
Florence, la première fois c'était en août 2021. Paris était vide. On se faisait applaudir dans la rue par les touristes qui se demandaient mais c'est quoi ce groupe de filles qui se baladent dans Paris à vélo. Les filles organisent aussi des allécates qui sont des courses d'orientation dans la ville. Et voilà, j'essaye de revenir le plus souvent possible.
En fait, ce qui est bien, c'est que parmi les go, il y a beaucoup de personnes qui roulent aussi dans des groupes mixtes sur d'autres soirs. Le mardi, elles vont rouler avec les copains du ride alternatif, le jeudi avec ceux de Okami. Sur le fonctionnement, en fait, il y en a une, donc c'est un collectif, donc il y en a une qui trace la map, qui teste le tracé pour voir si on peut passer en groupe. Ce soir, c'est Morane qui s'en occupe.
Est-ce qu'il y en a qui sont nouvelles ici? Donc bienvenue pour votre première ride. On rappelle simplement que c'est les Girls on Wheels, c'est un groupe qui roule en non-mixité de genre, donc il n'y a pas d'hommes cisgenres. Donc on va vous emmener quelque part, peut-être que certaines savent où on va, mais je vais laisser le suspense pour les autres. Ce soir c'est Ride Orange, ce qui veut dire qu'on va essayer de donner un petit peu de rythme quand même. Vous allez voir, on va être sur des grandes avenues, donc ça va bien rouler. Quand il y a un changement de direction, moi je le dirai à haute voix, donc il faut absolument que vous puissiez relayer l'information jusqu'à la dernière personne. Si on s'arrête, on fait ce signe-là. Et on veille à la sécurité de chacun pour veiller sur les autres, pour veiller sur soi. Donc vraiment, soyez très attentifs. Et on roule en groupe pour pas qu'on s'étende trop. On est nombreux ce soir, on est à peu près une trentaine. Donc c'est super. Et en même temps, il faut qu'on fasse attention à soi. Tout est OK? Et ben alors, c'est parti.
Aucune pratique sociale, quelle qu'elle soit, ne revient comme ça également au même moment dans tous les pays, aux mêmes endroits, pour toutes les populations. Il y a toujours des décalages. Il y a des décalages d'abord entre pays. Ça a commencé aux Pays-Bas, puis en Allemagne, puis en France. Il y a des décalages entre villes. Ça commence dans les grandes villes, puis dans les villes moyennes, puis dans les petites villes. Ça commence dans les centres-villes, puis dans les proches banlieues, puis dans les grandes banlieues, aux grandes périphéries. Ça commence auprès de certains publics, on va dire les publics éduqués, ceux qui sont sensibles à leurs problèmes de santé, puis qui veulent rester actifs pour vivre plus longtemps. Je vous assure qu'on vit vraiment plus longtemps si on est actif, vraiment. Puis ensuite les classes moyennes et enfin les classes populaires. Ça commence aussi par certains publics qui osent le vélo, malgré les risques, puis auprès ensuite de publics plus prudents. On voit derrière ça plutôt des hommes et ensuite plutôt les femmes, ou bien plutôt des adultes et ensuite plutôt les personnes âgées et les enfants.
C'est mon nouveau livre. Là, j'essaie de faire la même chose que là, c'est-à-dire d'infuser le vélo dans le débat public, mais de manière très accessible, avec des dessins qui montre un peu ce que représente
le vélo. Permet de bronzer.
Par exemple, là, bronzer, je pensais que c'est très léger, mais en fait, la lumière, ça produit nos vitamines D. Quand on se rend compte qu'on vit à l'intérieur 80% du temps, on se rend compte qu'en fait, nos corps prennent très peu de lumière. Et c'est très problématique parce que la lumière produit la mélatonine, les hormones du bonheur, les hormones du sommeil. Ça facilite la croissance, ça fixe le calcium sur les os. Pour les enfants, c'est très important. Si vous êtes tout le temps à l'intérieur, avec les vitres qui filtrent les rayons UV, vous n'avez pas ce dont vous avez besoin pour vraiment bien vivre. Et donc, ça a l'air très léger, mais derrière ça, il y a en fait une vérité très importante. Aller dehors pour être en bonne santé, pour être heureux.
Sachant que ça, c'est une des raisons sur les 50 que vous répertoriez dans ce livre.
Oui.
Parce que le titre, on va quand même le dire, c'est 50 bonnes raisons de faire du vélo.
Voilà, là par exemple, bon, ça c'est plus poétique. Un vélo garé dans la rue, en le regardant, vous devinez l'individu qui l'attend. Montrer que le vélo c'est vraiment quelque chose qui humanise le quotidien, qui apporte de l'humain, qui met de la couleur aussi dans un espace. Par exemple, ici le vélo c'est ludique. Le vélo, ça nous sort de la sphère utilitaire, où on va de A à B pour travailler, pour gagner de l'argent, pour se nourrir et pour se coucher après et pour recommencer le lendemain. Voilà, c'est un peu le système. Le vélo, c'est un moment, ça transforme ce moment de voyage en une petite aventure et qui donne cet aspect ludique à votre quotidien. Vous le sentez aussi parce que quand vous êtes sur un vélo, vous faites des choses que vous ne feriez pas dans le transport en commun. Alors que sur un vélo, ce que moi j'ai fait, c'est que je me mets parfois debout. Ça crée une sorte d'expérience comme dans une montagne russe. Quand on descend, par exemple, pour venir ici, il y a un moment où on descend d'un viaduc et donc on prend pas mal de vitesse. Ben, c'est une mini attraction. C'est un peu ce qu'on offre aux enfants pour qu'ils passent un bon moment. Ben là, nous, on l'offre gratuitement tous les jours. Et vous ne vivez pas ça en tant que piéton, parce que là, vous avez tap, 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 toujours le même rythme. Dans un bus, ben, vous êtes enfermé dans le bus. Et sur un vélo, en fait, vous devenez un peu le pilote d'un petit avion. Ben, je dis toujours que le vélo vous rapproche le plus de l'expérience d'un oiseau.
Strasbourg.
Je vais vous montrer tout à l'heure sur un croisement de pistes cyclables, qui est un des croisements très complexes. Quand vous avez sur une piste cyclable 13 000 vélos au jour, de l'autre côté il y en a moins, elle a 5 000, 6 000, mais ça fait rien, c'est compliqué à gérer. Et tout ce que je vais vous montrer, c'est une piste cyclable qui traverse toute la ville et qui sort de la ville. Et elle permet à un cycliste de faire une balade dans la forêt de la Robertsau, ou pour ceux qui font le cyclotourisme, on peut aller à 80 km par la piste, hein, à Markolsheim. De l'autre côté, on va dans les Vosges, en Lorraine, par la piste cyclable, le long des canaux, etc. Et que facilement, on ait la possibilité de voir l'interconnexion qui est entre les campagnes et la ville. Et c'est pour ça que ces pistes cyclables ont beaucoup, beaucoup de succès.
On a déjà des villes où on commence à constater un essor du vélo en périphérie. Par exemple, Strasbourg. À Strasbourg, le trafic auto était intense au centre-ville dans les années 70-80. Et donc, il y avait peu de cyclistes au centre-ville, mais beaucoup de cyclistes en périphérie. Parce que là se trouvaient les usines, il n'y avait pas encore beaucoup de voitures. On avait deux fois plus de cyclistes en périphérie que dans le centre. Et puis, les choses sont totalement inversées en 20-30 ans, pas plus. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de cyclistes au centre de Strasbourg qu'en périphérie. On en a 5 fois plus, à peu près. On voit déjà comment la pratique du vélo au centre-ville s'étend à l'approche périphérie, où la croissance a été considérable ces 10 dernières années, au point que l'approche périphérie est en train de rejoindre, au niveau de la pratique, le centre-ville. Et on voit déjà frémir la pratique en grande périphérie, avec l'agglomération qui commence à réaliser de vrais aménagements cyclables en périphérie, le long de tous les axes menant au centre-ville, mais sur une profondeur de 15 km, quoi. Strasbourg a compris qu'on peut partir d'un village à 15 km du centre-ville et aller à vélo au centre-ville, peut-être pas avec un vélo classique, mais avec un vélo assistance électrique, oui. Vos 15 km, à raison de 20 km/h, vous pouvez les faire en 3/4 d'heure.
Pour résumer un peu la recette de la ville néerlandaise, il faut juste retenir 3 lettres. R, R, S. Le premier R, c'est de réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'aurez pas de cycliste. Donc il y a certains maires qui sont très fiers d'avoir créé un bout de piste cyclable, mais après ils s'étonnent que des associations cyclistes ne soient pas contents parce que ben, c'est parce que les gens ne vont pas faire du vélo sur un petit bout de piste cyclable. Vous ne faites pas rouler un train si vous créez 3 bouts de rail par-ci par-là. Donc il faut un réseau. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les villes françaises, vous avez des réseaux express vélo. Le deuxième élément, c'est réduire. Il faut réduire la vitesse et aux Pays-Bas, là-bas, c'est les villes à 30. Et la différence, c'est que sur des routes à 30, les gens osent faire du vélo. Et ce qu'il faut réduire aussi, c'est le nombre de voitures qui passent, en déviant le transit automobile autour des quartiers et des villes. Et le résultat, c'est que vous apaisez la ville et ça permet aux gens d'oser faire du vélo, et notamment pour les enfants, les personnes âgées et tout le monde. Et le troisième élément, c'est le S de séparer. Séparer les vélos du danger. Le danger, c'est la voiture. Et comment on fait ça? Avec des pistes cyclables. Pas une bande de peinture, mais un séparateur, une petite rebord, ou des plantes, ou des balisettes, ou n'importe quoi, qui donne ce sentiment de sécurité aux cyclistes, et aux parents, et aux enfants, qui leur permettent de rouler là.
Thomas Joanneau, directeur de projet Modes Actifs au CEREMA.
Depuis le début, fin des années 90, début des années 2000, la demande sociale de vélo représentée par le milieu associatif a quand même été forte et a motivé les décideurs à développer le vélo et puis aussi la marche. On a un milieu associatif qui s'est structuré avec une expertise aussi d'usage qui a fait du monde associatif un interlocuteur très très crédible dans la question du développement de l'usage du vélo.
Je crois que vous êtes le premier chargé de mission vélo de France, non, Jean Chaumien ?
Semblerait, oui. C'est des choses qui arrivent. Mais je participais antérieurement à des réunions avec les ministères, etc. Et donc, c'est vrai qu'en 1995, je me suis retrouvé chargé de mission interministériel. J'ai demandé à mon église ce que je pouvais faire. On m'a dit, écoute, tu fais ton boulot, si tu veux faire ça à côté, ça te regarde. Hein. Le problème, c'est que je n'avais pas de moyens particuliers. Je n'avais pas d'équipe sous la main. Et moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technocrate, je suis pas... Et j'ai demandé à ce qu'on fonctionne comme... Je fonctionnais, moi, sur le mode associatif, c'est-à-dire... Là, j'ai contacté donc différents organismes, la RATP, la SNCF, l'ADEME, etc. Enfin bon, je me souviens d'ailleurs que quand est-ce qu'il y avait les grandes grèves, là, en 95, j'avais une réunion d'organiser au ministère, à l'Arche de la Défense, ministère des Transports. Les trains faisaient grève, j'allais pas aller à vélo d'ici sur Paris tout seul. Donc j'ai pris l'avion, j'ai atterri... Charles de Gaulle, là-bas. Et puis j'ai pris l'autoroute avec ma Brompton, mon vélo pliant. Donc, à un moment donné, j'entends derrière moi pimpon, pimpon. C'était un quart de policier. Alors, ils se sont arrêtés. Bon, moi, je me demandais ce qu'ils me voulaient, quoi. Ils m'ont proposé de m'emmener. Je leur ai dit, écoutez, ça m'intéresse pas parce que j'ai rien fait d'abord. Et puis, j'arriverai avant vous, effectivement. Un peu plus loin, ils étaient coincés dans les embouteillages. Quoi. Là-bas, j'avais le droit de rentrer avec ma Brompton. C'était à la fois à l'environnement, et au ministère de l'Environnement et au ministère des Transports. J'avais le droit de rentrer mon vélo, parce que je le pliais gentiment. De temps en temps, quand il y en a un qui râlait, un des huissiers, je disais, mais il faut que je montre le vélo au ministre. Et donc là, je suis arrivé, le directeur de cabinet était présent, mais il n'y avait personne à la réunion. Personne n'a pu venir à cause des embouteillages. Moi, j'ai pu venir de Strasbourg et ma Brompton.
Le trafic auto à Paris a culminé vers 1990. Et depuis, il ne cesse de baisser, en s'accélérant. C'est donc Chirac qui a commencé à réduire le trafic auto, sans le vouloir peut-être même, tout simplement en protégeant les trottoirs par des potelets, vous savez, des petits poteaux. Pourquoi ? Parce que tous les trottoirs étaient envahis par du stationnement illicite, et donc pour que les piétons de Paris, qui sont quand même très nombreux, puissent tout simplement marcher sur le trottoir plutôt que sur la chaussée, les potelets ont été multipliés. Et bien ça a contribué à rendre un peu plus compliqué l'usage de la voiture dans Paris. Et puis Jean Tiberi est arrivé en 1995, et lui, comprenant que les choses étaient en train de changer, a délibérément lancé une politique vélo et une politique de modération du trafic auto. Pour réduire la pollution, pour réduire les accidents, le bruit, pour relancer le vélo, la marche, tous les arguments de la gauche au pouvoir depuis 2001 à Paris sont déjà présents dans le discours de Tiberi. En 2001, on avait déjà 180 km d'aménagement cyclable dans Paris, les premières zones 30, les couloirs bus, vélo. Et quand Bertrand Delanoë est arrivé en 2001, ils ont accéléré cette politique. Puis à nouveau accéléré avec le premier mandat d'Anne Hidalgo, parce que le contexte évolue et que ça devient de plus en plus urgent, bien sûr. Et aujourd'hui, on a déjà une baisse de 60% du trafic automobile dans Paris intramuros entre 1992 et 2020, et une multiplication par 25 des déplacements à vélo. Pour donner un ordre de grandeur, on voit bien qu'à Paris, ce n'est pas que les aménagements cyclables qui ont permis l'essor du vélo, c'est aussi la baisse du trafic auto. La maire de Lille, Martine Aubry et son équipe, ont décidé d'interdire le trafic de transit par le centre-ville. C'est-à-dire qu'on ne peut plus traverser le centre-ville, on peut toujours y accéder, mais par des boucles seulement. Un an plus tard, on a fait des comptages, avant, après, sans aucun aménagement cyclable supplémentaire, uniquement en ayant modéré le trafic auto, on a constaté une hausse de 42% des déplacements à vélo dans le centre de la ville de Lille.
Je m'appelle Camille Thomé, je suis la directrice de Vélo et Territoires. Vélo et Territoire. On est le coordonnateur du réseau national cyclable, un réseau de collectivités, et on est basé à Lyon.
Est-ce qu'on continue à marcher comme ça ou vous voulez qu'on s'arrête à un moment ?
Bon, c'est comme vous voulez. Là, on va pouvoir marcher très 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 longtemps, jusqu'au lac Léman si vous voulez. Jusqu'au parc de la Tête d'Or de façon plus prosaïque, en allant toujours tout droit sur les berges du Rhône. Mais ce qui me semble intéressant, c'est d'aboutir dans 2-3 ponts, où là, on pourra remonter et on sera au croisement à la fois des berges du Rhône, où là, on est sur un itinéraire de type voie verte, hein, ça veut dire que tous les mobilités actives sont accueillies au même endroit. Et c'est très traversant de la ville, donc il y a quand même des niveaux de pratique qui sont très très importants, avec plusieurs milliers de passages cyclistes enregistrés chaque jour hein, sur cet itinéraire de la Via Rhôna, qui est également un grand axe de mobilité du quotidien. Il y a tellement de pratiques ici que sur les hauteurs, s'est développée une piste cyclable bidirectionnelle également, qui constitue une section du futur réseau express vélo métropolitain, qui ici s'appelle les voies lyonnaises. L'objectif, c'est de pouvoir substituer une grande partie des kilomètres parcourus en voiture individuelle vers des mobilités plus actives, dont le vélo évidemment. Et lorsque la métropole est cyclable, et sur la métropole de Lyon, c'est de plus en plus le cas, bah, ça devient vite un réflexe de circuler à vélo parce que c'est drôlement moins embêtant que de circuler en voiture.
Et si vous... Je crois que j'avais très contente. J'avais dit là-bas.
Une des prédictions, non, je ne suis pas l'auteur, mais qu'il faut rendre à Julien Demade, c'est un historien, il dit, mais évidemment, un jour, il y aura plus de cyclistes que de voitures dans les rues. J'ai vérifié ça. Prédiction, et il a tout juste, évidemment. Et on est déjà en train de le voir. Dans plein de villes en Europe, c'est déjà le cas. C'est le cas à Copenhague, c'était avant le cas à Münster, en Allemagne. Ça va être prochainement le cas à Paris. Qui l'eût cru ? Enfin, quand on voit comment le vélo, entre 2005 et 2014, augmente partout dans le monde, y compris dans les villes américaines, comme Washington ou Chicago, des villes où on n'imagine pas du tout qu'il y a du vélo. On veut bien qu'il y en ait à New York ou à San Francisco, mais à Denver. Et pourtant, c'est aussi le cas. Sachant cela, ayant aussi plein de chiffres sur l'essor du vélo dans des villes européennes, comme Bruxelles, Genève, Berlin, Paris, ça s'est accéléré.
En fait, vous pouvez tout faire ce que vous faites avec une voiture, vous pouvez le faire aussi avec le vélo. Ça s'appelle l'économie du vélo. Il y a aujourd'hui des boîtes à vélo, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont repensé leur métier autour du vélo. Philippe Gentil, par exemple, c'est un ébéniste qui a raconté son histoire. Il a complètement repensé son métier autour du vélo. Et il a dit, plutôt que d'acheter une grosse camionnette, de louer un gros local pour scier mon bois, il a dit, je vais faire couper mon bois en banlieue quelque part où il existe une scierie et que je vais faire livrer par un camion chez mon client. Et après, je me déplace à vélo chez mon client avec juste mes outils à bord. Il y a des ramoneurs, il y a des coachs, il y a des boulangers. Si vous tapez boiteavélo.fr, vous allez trouver tout ce que vous voulez.
On n'a pas encore vu de vélo de déménageur.
Ça existe à Paris. C'est une société de déménagement à vélo qui déménage votre piano à queue à vélo. En fait, le vélo, c'est un modèle économique. Rien qu'en termes de santé, aux Pays-Bas, on dépense chaque année 510 millions d'euros pour le vélo et ça économise 19 milliards d'euros en termes de santé, un dixième du budget de santé. Il a été calculé que quand vous faites 1 km dans votre ville en voiture, ça coûte 89 centimes à la ville parce qu'il faut construire des routes, il faut les entretenir, il faut les administrer, il faut les éclairer, les surveiller, etc. Plus avec la pollution, tout l'équipement avec. Et si vous faites ce même kilomètre à vélo, ça rapporte 26 centimes à la ville. Pourquoi ? Parce que vous n'abîmez pas la santé des gens, vous n'abîmez pas la qualité de l'air, vous n'abîmez pas non plus la qualité de vie, parce qu'une ville avec des villes, c'est une ville plus sûre, une ville plus humaine, une ville avec moins de bruit, où une personne âgée peut traverser plus facilement, avec des routes qui sont donc plus agréables humainement et donc aussi commercialement. Et c'est comme ça qu'on peut construire une ville plus agréable grâce au vélo, et ça rapporte beaucoup d'argent.
Combien de temps vous roulez avec les
gosses? Quand je travaille pas, je viens tous les mercredis. C'est ma sortie de la semaine. Ça fait du bien de se retrouver, faire du sport.
Ça fait depuis 2019 que j'avais recommencé à faire du vélo,
Mais j'avais assez peur parce qu'il n'y avait quand même pas de piste cyclable. Enfin, c'était un peu le bordel. Les grèves, ça a été le chaos, suivi du Covid. Et là, ils se sont dit, ah, on va peut-être faire quelque chose. Et en fait, entre le cumul des grèves et le Covid, j'avais quand même assez peur de prendre les transports en commun. Je trouvais ça pas du tout sécurisant en termes d'hygiène et tout. Au final, le vélo, ça s'est resté, quoi.
On a la crise sanitaire qui arrive en 2020. Une personne sait vraiment où il habite. Hein. On a le système de transport qui est complètement bloqué. Une crise de confiance dans le transport en commun hein, qui est perçue comme une source de contamination très forte. On a aussi un espace public qui est complètement libéré de la voiture hein, avec ces immenses nappes de bitume où il y a rien dessus. Et tout ça, ça fait prendre conscience du potentiel de développement d'usage du vélo qui s'impose finalement comme la solution parce que elle permet de respecter la distance sanitaire. C'est aussi un transport de masse, hein. Ça permet de faire transiter une grande quantité d'usagers. À la faveur de ça, on se dit, on va y aller, quoi. On va mettre le paquet, on va prendre de la place à la voiture pour, quand on va être déconfiné, eh bien, que le vélo puisse être très facile.
Ici à Lyon, par exemple, ça a été l'occasion de développer, je crois, de mémoire, près de 60 km de pistes cyclables de transition, du marquage jaune avec des plots un peu en mode test, qui pour la plupart ont aujourd'hui été pérennisés. Et si vous remontez la Saône en rive droite, la voie bleue, la V50, au schéma national des véloroutes, vous voyez que ces aménagements cyclables de transition ont permis une bidirectionnelle cyclable, très confortable en rive gauche de Saône, là où auparavant le cycliste s'excusait de vaguement serrer les fesses sur la bande cyclable. Donc c'est quand même fantastique tout ce que ça a permis de développer. Et là c'est un micro-exemple, mais ça s'est exercé à plein d'endroits partout en France. À Vélo et Territoire, on a pu enregistrer entre 2019, 2020, 2021 des plus 30% de fréquentation cyclable si on cumule tous les milieux. Honnêtement, il faudrait qu'on ait ça tous les ans pour atteindre nos objectifs de part modale cyclable au national.
C'est le mode de déplacement qui a le plus grand réservoir d'usagers occasionnels. Il y a plein de gens qui font du vélo, pas tous les jours, mais de temps en temps, quoi. Donc dès qu'il y a la moindre crise, ces cyclistes occasionnels deviennent des cyclistes réguliers. Et c'est ce qui permet d'expliquer un triplement, du jour au lendemain quasiment, du nombre de cyclistes dans les rues.
À Strasbourg.
J'ai pu constater, hein, le cycliste est prioritaire par rapport à la voiture. La voiture a un stop, le cycliste peut passer.
Jean-Luc Marchal.
Et autre élément également, là je l'ai agrandi, la piste est passée à 4 mètres. En l'espace de 10 ans, vous avez quasiment une vingtaine de marchands de vélos qui sont créés à Strasbourg. Et aussi c'est un signe ça. C'est un signe que ça marche bien. Vélo prioritaire. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'abaissement. Il y a grosso modo, vous pouvez faire cloc-cloc. Non, c'est la voiture qui doit monter. Oui, l'évolution de la ville. Là, c'est une piste cyclable. À l'époque, on faisait 3 mètres de large. Piste cyclable bien directionnelle. Maintenant, clairement, avec le cirque, le monde qu'il y a dessus, les vélos qu'il y a, il faut mettre 4 mètres dans les pistes cyclables. 3 mètres, c'est trop peu. On va prendre juste à droite sur les quais et s'arrêter un petit peu plus loin. Vous voyez, toutes ces grilles, partout, c'est les grilles de garde-corps du quai. Hein. Partout, il y a les vélos. Partout. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas, je viens de l'assurer. Hein. Pour vous dire que quand on a créé, donc mon dernier gros chantier, c'est ces quais, je veux dire, il a fallu tout refaire, où il y avait 16 000 voitures jour. Les vélos, il y a quasiment pas droitisé.
Frédéric Errand.
Il y a beaucoup plus de déplacements de proximité que l'on croit. En particulier dans les petites villes. C'est là que je suis invité aujourd'hui à faire des conférences. Ce n'est plus dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est acquis, on sait qu'en centre-ville, si on calme le trafic, on va voir plein de cyclistes. J'étais à Avranches, par exemple, vous voyez, c'est 12 000 habitants seulement, hein, en Normandie. Eh bien, ça y est, il y a 3-4 ans, ils ont libéré pour la première fois une place, petite place, du stationnement automobile. Ils ont osé supprimer 11 places de stationnement sur la place la plus ancienne de la ville, qui est une petite place moyenâgeuse, tout à fait chouette. Bon, ça n'a pas été la révolution. Les gens, finalement, ont très vite conquis cet espace public, enfin préservé. On a des terrasses de resto, tout ça, c'est sympa comme tout. Bon, la ville s'interroge, pourrait peut-être continuer ailleurs, libérer l'autre place, qui sait.
on a eu des débits cyclistes suite à la crise sanitaire et qui se maintiennent déjà maintenant, que personne n'avait imaginé, même les militants les plus optimistes pour le vélo. Hein. La piste cyclable bidirectionnelle de la rue Sébastopol, le 10 novembre 2022, eh bien, elle a eu un trafic de plus de 26 000 cyclistes, ce qui est comparable aux infrastructures cyclables les plus connues aux Pays-Bas et les plus capacitives. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que Sébastopol se retrouve sous-dimensionnée, alors que c'était déjà une piste cyclable de 4 mètres. Donc, beaucoup de personnes, quand elle a été inaugurée en 2019, avaient présagé qu'elle servait à rien. Ben, 3 ans plus tard, elle se retrouve complètement saturée. Donc, il faut quand même déjà prévoir une largeur suffisante pour anticiper sur des flux cyclistes importants. Il faut prévoir une séparation qui soit dissuasive pour les usagers motorisés pour qu'ils aient pas envie de venir s'arrêter, de stationner sur la piste cyclable. Et puis, a fortiori, du côté du cycliste, eh bien, faut que ça soit pardonnant et que cette bordure, elle puisse pardonner les écarts de trajectoire. Et donc, on a des formes de séparation qu'on préconise. Et puis, cette séparation, elle peut être utilisée pour faire autre chose. Hein, c'est ce qu'on appelle la bande technique. Elle peut être aussi utilisée pour accueillir de la végétalisation, pour accueillir du stationnement vélo, pour accueillir aussi du stationnement motorisé. Et là, pour le coup, il faudra qu'elle soit quand même beaucoup plus large. Mais c'est vrai que cette séparation, elle est quand même fondamentale pour rendre l'infrastructure suffisamment attractive et rassurante pour les cyclistes.
Alors moi, c'était la première fois que je roulais en groupe.
Alors, on peut rouler des années tout seul, comme moi j'ai fait, et s'apercevoir que finalement, il y a un vrai esprit, une vraie communauté.
À la fin du parcours, avec les Girls on Wheels.
En faisant le tour là, du finish, il y a des personnes qui parlent des sorties vélo qu'on a faites le week-end dernier, celles qu'on fait le week-end prochain. Bientôt, là, il y a un 200 km, on est nombreuses à être inscrites dessus. Donc il y a un vrai truc où on se retrouve sur des événements, sur des soirées. On se retrouve aussi des compagnes et des compagnons pour rouler les week-ends. Il y a une demande. En fait, souvent, chez Lego, on est sollicité. C'est une vraie communauté. Et ce que j'aime beaucoup dans cette communauté, c'est qu'on vient de plein de milieux différents.
Et le fait d'être en groupe de femmes qui occupent l'espace public de manière visible là et collective, qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça raconte? C'est impressionnant, 30 femmes à vélo dans la nuit avec des phares.
Oui, en fait, tu as utilisé les bons mots, tu as dit occuper l'espace public. Et ça, c'est aussi un but que nous, on cherche à atteindre. C'est-à-dire qu'on veut être visible et quand on est en groupe, on se sent plus puissante et on a beaucoup plus de confiance, on est plus rassurée. Et c'est pour ça aussi qu'on a des rides qui sont ouverts aux débutantes. C'est pour les mettre à l'aise, leur montrer que quand on est ensemble, on a plus de force, on a plus de poids, on est... et puis c'est plus sympa.
Merci à Jean Chaumien, Jean-Luc Marchal, Stein Van Osteren, Frédéric Errand, Thomas Joanneau, Camille Thomé, Anne-Louise, Morane, Noémie et toutes les Girls on Wheels. Archivina Aude Vassan et Christelle Rousseau, documentation musicale Virginie Gresset, attachée d'émission Marivonne Abolivier, Anaïs Morales, coordination Perrine Carvan. Un documentaire de Julie Navarre, mixage Bruno Mourlan, réalisation Jean-Philippe Navarre. À suivre, la vélo-révolution. Voyageurs tout-terrain.